France Culture.
France Culture. Être et savoir. Louise Tourret.
Deuxième épisode d'une série de 8 podcasts sur les grandes idées qui transforment l'éducation et la parentalité. Parler au bébé, ça a été une idée révolutionnaire. Regarder un nourrisson s'adresser à lui en changeant les couches, en le nourrissant, en jouant, en donnant un bain, c'est à la fois banal pour de nombreux parents et complètement nouveau dans l'histoire de l'éducation. Le soin des tout-petits a totalement changé et nous souhaitions réfléchir à cette révolution initiée par Françoise Dolto. Nous sommes des êtres de langage dès les premiers jours de notre vie. Parfois, les non-dits nous abîment longtemps. Et les bébés peuvent entendre certaines choses.
Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi. Et tu auras un papa et une maman d'adoption pour la vie. Si elle se rétracte, alors on l'accueillera et on l'aidera à te retrouver et à s'occuper de toi.
Sandrine Kiberlin dans le magnifique film Pupi de Jeanne Herry, sorti en 2018. Sandrine Kiberlin qui s'adresse à un nourrisson né sous X et on entend l'accélération des battements de son cœur. Bonsoir Elisabeth Brami.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, clinicienne et écrivain. Vous écrivez pour la jeunesse, comme Je ne suis pas le doudou de mon papa, chez Talents Hauts. Et vous avez publié L'éducation selon Dolto, ce qu'elle a vraiment dit pour aider les parents chez Albin Michel Poche en 2021. Vous l'avez écrit ce livre avec Patrick Delaroche. Alors, je le disais, parler aux enfants, ça a pu, aux bébés surtout, ça a pu paraître une idée farfelue au départ. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de parents le font. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire parler à son bébé? C'est vraiment s'adresser à son bébé, c'est pas parler en présence de son bébé, c'est lui dire quelque chose.
C'est parler à son bébé, c'est pas parler de son bébé, c'est pas parler au-dessus de sa tête dans un téléphone, c'est parler à lui en personne. Et je suppose que si ça a mis autant de temps à être compris par les parents, c'est que longtemps, on a considéré que le bébé n'était pas une personne. Il faut revenir à ça. C'est-à-dire, c'était une espèce de petit rôti qu'on passait dans un petit portillon pour le déposer dans une pouponnière, où on l'accrochait au mur en Bretagne pour aller au champ. Enfin, c'était un truc qui n'était pas fini. Et comme ça ne parlait pas, puisque enfant veut bien dire ne parle pas, qui ne parle pas, ben, ce qui ne parle pas, théoriquement, ça doit pas comprendre non plus. Il faudrait demander, d'ailleurs, moi j'ai pas eu l'occasion, mais il faudrait demander aux enfants muets, sourds-muets. Ils ont certainement une autre façon d'être considérés par les gens de la rue, hein, dans un bus, etc. On s'adresse pas à eux de la même façon, parce que on est persuadé que celui qui ne parle pas ne comprend pas. Et longtemps, on a eu ce préjugé. Le bébé ne comprenait rien. Donc, on pouvait dire n'importe quoi devant lui. Et c'est une grave erreur, parce que l'enfant, il est tout neuf. Il est comme une sorte de... Vous savez, les micro-sillons, là, les premiers disques qui étaient en cire. Eh bien, tout se grave pour toujours. La mémoire fonctionne et les premières fois sont décisives. D'ailleurs, Dolto disait très justement, tout ce qui est dit au-dessus du berceau marque l'enfant. Et enfin, ça rejoint un petit peu les contes de fées, les mauvaises marraines qui souhaitent les pires horreurs ou bien
les fées au-dessus du berceau de Cendrillon.
Mais ça marque, les paroles marquent.
Mais Elisabeth Brami, pourquoi est-ce que le langage corporel ne suffirait-il pas? On a parlé dans le premier épisode de l'attachement.
Oui.
On s'attache, on est dans le pot à pot qui est tellement important.
Oui, mais on n'est pas des sages.
Et on communique.
On n'est pas des sages. Les singes sont merveilleux, hein. Et il y en a qui apprennent le langage des sourds-muets d'ailleurs. Mais le rapport au langage entre êtres humains, c'est-à-dire entre un parent et un bébé, c'est pas du tout la même chose, parce que le langage, c'est du symbolique. Quand je dis un lapin, il saute pas là sur votre table, c'est un lapin. Vous avez dans votre tête un lapin. Moi, j'en ai un autre, peut-être que le vôtre est blanc, le mien est noir, ou peu importe. Mais l'enfant, lui, il sait que chaque mot correspond à quelque chose, très vite. Il sait, par exemple, Winnicott, qui était génial, parce que bon, on parle de Dolto, mais enfin, Dolto, elle fait partie de tout un mouvement. L'enfant est une personne, il y a quand même eu Freud, la psychanalyse, il y a eu beaucoup de choses, hein. Elle n'est pas tombée du plafond. Elle était simplement, elle avait des intuitions, sa grande qualité, ça a été qu'elle n'a pas oublié comment c'était quand elle était bébé, voilà. Et quand elle était petite. Et elle n'a pas oublié la première baffe qu'elle a reçue quand, pendant la Première Guerre mondiale, elle voit la voisine arriver auprès de sa mère, pleurer, et la môme, elle a 4 ans, et elle dit, en tirant un peu la robe de sa mère, mais la dame, elle a quoi ? Et pourquoi elle pleure ? Et sa mère lui dit, elle a perdu son mari. Et la môme, qui n'était pas idiote, qui s'appelait pas encore Françoise Dolto, mais Françoise Marette, dit, bah, elle a qu'à le chercher. Voilà. Donc là, le rapport au langage, il est là. Il est très précieux.
Qui évoque d'ailleurs dans ses écrits et dans sa biographie sa propre enfance, qui évoque aussi l'enfance de ses enfants à elle, puisque elle a parlé à ses enfants,
ce qu'elle
préconise, elle le pratique. Alors, est-ce que ça demande des compétences particulières ? Parce que le langage et le fait de parler avec aisance, c'est quand même pas socialement également distribué. Est-ce que ce serait pas une pratique un petit peu de gens qui lisent des livres ? Non, mais je vous provoque.
Non, fichez-moi.
Et qui vont faire des grandes phrases pour tout expliquer à leurs
enfants. Non, on n'est pas obligé de connaître tout Proust et de le lire à son gosse de 2 ans ou un an dans son berceau. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très fatigant d'expliquer comment Dolto naturellement disait parlez-leur, bon Dieu, ben parlez-leur, mais normalement. Et que ça a été entendu comme il faut savoir leur parler. Non,
c'est pour ça que je pose la
question. Il y a rien à savoir. Faites-le, faites-le comme si vous étiez un animal. Alors chantonnez si vous n'avez rien à dire. Sortez votre petit de 3 jours de son berceau et dites-lui regarde comme il fait beau ce matin. Et je reprends à Winnicott que j'ai laissé tomber en panne là, mais à tort. Une mère qui dit de loin de la cuisine le biberon arrive, t'inquiète pas, parce que le gosse commence à brailler, à pas être content. Bah, le môme, il sait ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, il sait que le biberon va arriver. Et Winnicott, qui était très marrant, disait « C'est comme ça que naissent les artistes, parce que l'enfant qui attend dans son berceau et qui entend « Le biberon va arriver », il a déjà ce biberon dans la tête et il invente tout le scénario autour du biberon « Et je vais téter, je vais me régaler, etc. etc. »
Et c'est le début d'une histoire. Alors,
le début d'une histoire.
Quand j'ai choisi l'extrait du film Pupi, je me suis dit, bon, voilà, on est dans le cas vraiment typique de ce que peut décrire Dolto.
Oui.
C'est, on révèle quelque chose
bien
à
sûr.
L'enfant, on lui dit quelque chose d'important de sa vie,
pour
qu'il le sache tout de suite.
Oui.
Mais on n'est pas obligé et on n'a pas toujours une révélation à faire à son enfant. Et est-ce qu'il faut comme ça rendre... Non, parce qu'il y a quelque chose de très lourd dans cette idée de parler à l'enfant.
Non, mais il y a des cas où c'est très important de dire à l'enfant ce qu'il en est. Par exemple, quand on voit qu'un enfant est en train de maigrir, que la mère va pas bien, on peut très bien prendre l'enfant à part et lui dire, tu sais, en ce moment, ta maman ne va pas très très bien, c'est pour ça que tu manges moins bien, mais tout va s'arranger, on va s'occuper de ta maman. Ça marche. Le gosse, il en sait plus que les parents, des fois.
Alors, bien sûr, on imagine des biberons quand on prononce le mot. D'ailleurs, il ne faut pas le dire si on n'a pas un biberon dans le coin, à mon avis, quand on a un bébé affamé. Mais est-ce qu'on parle aux enfants pour leur apprendre à parler.
Mais
et
non.
Est-ce que leur apprendre à parler, c'est la même chose oui. qu'être dans le langage? Et expliquez-nous la différence, Elisabeth.
Écoutez, être dans le langage, c'est être dans le décodage du monde pour lui. C'est-à-dire, on se promène dans un appartement avec un bébé et on commente, on fait l'imagie du père Castor, quoi. On dit, là, il y a les rideaux, et là, t'as vu, il y a ton papa qui est sur le canapé. Enfin, là, j'exagère, parce que, bon, admettons qu'il soit pas dans... Il est en train de faire à manger.
Qu'il passe l'aspirateur.
Voilà. Et là, il y a ceci, il y a cela. On raconte le monde à l'enfant. Parler, c'est raconter une histoire. Et c'est mettre des mots et c'est faire entrer l'enfant dans le symbolique, c'est-à-dire que tous ces mots, il va les retrouver ensuite en dessin, il va les retrouver évoqués dans des histoires, dans des chansons, il entendra le mot chat. Le chat, ça sera pas forcément celui qui a des poils et qui est là dans l'appartement. Il n'y a pas d'apprentissage a priori. Il y a à parler et même à bêtifier si on veut. C'est le son de la voix qui d'abord est important. D'abord, c'est la musique des mots. C'est la musique. Je me souviens, j'avais fait une anthologie de poésie pour les petits et un père est venu me prendre un bouquin. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise. Ma fille a 2 ans et demi, tous les jours, tous les soirs, je lui lis un poème. Et il a ajouté, je me fiche complètement de savoir si elle comprend le poème, moi ça me fait plaisir, et je crois que ça lui fait plaisir aussi. Peu importe le sens, il est dans le son de la voix. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire un truc, si vous dites à un enfant que vous l'aimez et vous le détestez, ou il vous exaspère, il sait que vous êtes en train de le truander. Je me souviens d'une photo que j'ai faite d'une amie à moi, en train de changer son enfant. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, c'était son premier, hein, voilà, la couche pleine de caca. Elle faisait une grimace dingue. Je m'en aperçois quand je développe la photo. Mais je me souvenais parfaitement que pendant qu'elle le changeait, elle lui dit « Oh, le beau caca, comme il est mignon ce caca, comme il est beau, les petites fesses. » Pas du tout. Le gosse, il a vu la tête de la mère. C'est ça qui compte. La tête était dégoûtée.
Donc il comprend aussi que le langage peut être une ruse, cet enfant.
Il y a le langage des signes, il y a les langages des symptômes. Dolto, elle comprenait très bien les enfants par le corps parle.
Et vous avez prononcé, Elisabeth Brahmi, le mot bêtifier, qui moi m'intéresse beaucoup.
Oui.
Parce que Dolto, elle a plutôt tendance à dire qu'il faut parler assez sérieusement aux enfants,
en tout cas
s'adresser à eux comme des personnes.
Oui.
Donc, pour moi, pas forcément bêtifier.
Non, mais alors, je suis bien placée pour vous répondre parce que j'ai fait le dico des bébés il y a des lustres et que je pense que tous ces petits mots, caca, je sais pas quoi, et même caca boudin, tout ça c'est très marrant et tout ça c'est très bon pour la santé. Bêtifier, je le disais, parce que ça peut être même des onomatopées qui sortent de la bouche du parent. Quand on embrasse un gosse, quand on le chatouille, on fait des trucs comme ça, quoi. On a le droit d'être un peu gâteux et d'inventer des mots et de trouver des petits surnoms débiles. Et c'est pas grave. C'est mieux que de se taire ou d'attendre la grande idée parce qu'on a entendu une émission un jour à la radio ou lu dans un livre que, ah non, mais il faut parler au bébé. Parce que, alors, ça coupe, ça scie les pattes des parents. Si on attend d'être génial pour ouvrir sa bouche, c'est grave. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez sur les enfants qui ont besoin d'entendre leur histoire, le secret de famille, etc., ça, c'est important de parler, bien évidemment. Un enfant a besoin de savoir, pour grandir, ce qu'il en est de sa personne et de sa place dans la fratrie, et qui est quoi.
Qui sont ses grands-parents?
Qui sont ses grands-parents? D'ailleurs, elle était adepte de l'arbre généalogique très tôt, et les enfants en ont encore plus besoin de nos jours, parce que les familles sont tellement explosées qu'on ne sait plus qui est quoi. Hein.
Recomposer, souvent.
Oui.
On dit plutôt ce mot en général. Alors, cette idée de parler aux enfants, et particulièrement aux bébés.
Oui.
Elle n'était pas la seule à la formuler, évidemment, Françoise Dolto, mais c'est elle qui l'a portée en France.
Oui.
Et cette idée paraissait folle. Je vous propose d'écouter Elisabeth Brahmi, un extrait d'Apostrophe. Vous vous souvenez de cette émission?
Oui.
Mais quand vous commencez à parler à des bébés, même, comme s'ils allaient pouvoir vous répondre, on a dû quand même beaucoup se moquer de vous.
Oui, j'étais un peu la zinzin de service. On s'amusait de me voir parler avec les enfants.
Certains devaient penser que vous étiez toqué, non?
Oui, sûrement. Oh, non. Mais enfin, c'est vrai que j'ai cette c'est peut-être une conviction, c'est une manière de vivre, qui est que l'interlocuteur le plus jeune est encore plus malin que le plus vieux, un peu comme une partie qui n'est pas encore jouée, qui a toutes les potentialités.
Dans ce dialogue avec le bébé, j'arrive à croire qu'il puisse vous comprendre, mais vous il n'a rien à vous dire.
Je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais je sais qu'il me dit. Il me communique sans arrêt. Et moi, je sais que j'essaye de le comprendre et qu'il sent que je ne le comprends pas tout à fait. Mais c'est ça le travail entre nous.
On vient d'écouter Françoise Dolto avec Bernard Pivot, évidemment, dans Apostrophe, j'ai évidemment, parce que pour moi, je reconnais très très bien sa voix. C'était en 1987, on parle des grandes idées qui ont changé la parentalité. Je crois que parler à ses enfants en fait partie, mais il n'y a pas seulement en parler. Et elle est intéressante, cette question de Bernard Pivot, c'est écouter aussi un enfant dont il décrète d'ailleurs qu'il n'aurait rien à dire.
Bien sûr. Mais moi, je pense que si on a aussi peu parlé aux enfants et beaucoup plus aux chiens et aux chats pendant longtemps, c'est qu'on avait peut-être peur de la réponse des mômes. Voilà. Parce qu'en fait, l'enfant doit devait rester, soi-disant, sous l'autorité ou dans la dépendance de celui qui sait. Celui qui sait, c'est le parent, c'est la grande personne, c'est l'adulte. Et on ne s'adresse pas à lui. Parce que si jamais il répondait, d'ailleurs, il y a des films d'horreur où le bébé se met à parler, on le sait. C'est vrai, non? C'est épouvantable. Et le bébé, on sait qu'il sait des choses. De toute façon, il y a quelque chose, même si, là, je caricature méchamment, mais il y a quelque chose d'intimidant chez un bébé. Il y a des parents qui parlent au bébé in utero. Et c'est très bien. Puis l'autonomie, on peut en connaître, etc. Que les gosses réagissent, c'est évident. On a attendu d'ailleurs d'apprendre que, et c'était au moment où Dolto parlait à ses bébés et aux bébés, que l'enfant entendait tout autour de 6 mois, comme s'il était dans la chambre, dans la piole. Mais ce qui est certain, c'est que la peur d'entendre le bébé vous répondre... voir le regard de l'enfant sortir, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui parle une langue étrangère. On va mettre un temps fou à décoder les cris, les pleurs. Il y a des mères et des parents qui sont très très paniqués quand ils entendent pleurer. C'est très très difficile à supporter. Mais très vite, on se dit ah ouais, ça c'est le pleur des fesses, et ça c'est la faim, et ça c'est le sommeil, il est énervé. Il y a des pleurs. C'est un langage. Aussi.
Et puis, ensuite, l'enfant entre dans notre langage. Oui. Il parle avec des mots, et ces mots, on peut les écouter là aussi. Je pense qu'il y a une peur. Et la révolution, c'est peut-être pas seulement de parler à ses enfants, c'est d'écouter ce que les enfants
évidemment.
Plus grands ont
évidemment.
À nous dire, oui. et de l'écouter vraiment, pas juste de l'entendre. Elisabeth,
oui,
vraiment.
Quand elle dit que c'est dans la relation, c'est, en fait, parler, c'est entrer en relation. C'est une relation, la parole. Et la parole, même quand l'enfant ne parle pas, il y a dialogue. Il y a dialogue, parce qu'il a sa façon à lui de répondre. Et dans son silence, il y a des trucs où il se met à baver, où il se met à se marrer, où il cligne des yeux, où il serre les poings. Il a une réaction. Il est pas idiot.
Mais... Venez là où je vous emmène, sur l'enfant qui parle, l'enfant qui dit des choses qui, par exemple, ne nous plaisent pas.
Oui.
Parce que il y a un peu de domination dans l'éducation.
Oui.
Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais
tais-toi, c'est quand tu seras plus grand.
Il y a les grands et les petits.
Oui,
et ça, évidemment, fait toute la relation. Le fait d'écouter l'enfant, d'écouter ce qu'il a à dire.
Oui.
Ça aussi.
Ah bah, alors évidemment, ça.
De Dolto et des psychiatres du XXe siècle ont complètement changé la vision de l'éducation. Ah. Mais ça, c'est une révolution, en fait, au mi-temps de ce siècle-là, qui a complètement changé la parentalité. Alors, tout le monde n'écoute pas ses enfants aujourd'hui, loin de là.
Mais c'est ce qui a coûté à Dolto cette étiquette de fabrique de l'enfant roi, à tort. Parce qu'il n'y avait pas plus, fabrique de la frustration qu'elle. Elle tenait énormément à ce qu'on dise non à l'enfant, qu'on sache lui donner des limites. Mais on lui devait aussi une écoute. Et cette écoute, elle existait même du temps de Janusz Korczak en Pologne, bien avant.
Oui,
le droit de l'enfant
au
respect,
20, oui.
C'est quelque chose. C'est-à-dire, l'enfant, il a des choses à nous apprendre aussi. Et on ne peut pas tout comprendre de lui si on n'entend pas ce qu'il dit. Et autrement, si on ne l'entend pas, finalement, il se met à somatiser, à parler avec son corps. Il se met à avoir plein de boutons dans les fesses, sur les fesses, à plus bouffer, à plus dormir. Et alors ça devient beaucoup plus compliqué. Mais on peut très bien entendre ce qui et ne pas être d'accord avec. C'est un dialogue.
C'est drôle d'ailleurs qu'on ait assimilé l'idée d'écouter les enfants à l'idée de céder à leurs envies, voire leurs caprices.
Mais pas du tout, au contraire, c'est un dialogue, on peut ne pas être d'accord, on discute, mais bon, ça va. Au bout d'un moment, le parent dit, je suis désolée, mais c'est la loi, c'est comme ça, tu coucheras pas avec ta mère, tu coucheras pas avec ton père. Dolto disait d'ailleurs très justement, à 3 ans, quand il rentre à l'école, un gosse, il doit connaître son nom de famille, son vrai prénom, parce que c'est Titi, Riri, Fifi, Loulou... il ne sait même pas comment il s'appelle. Et puis, connaître la loi de l'inceste, c'est évident. Il y a des choses... 3 ans, c'est beaucoup déjà d'élevage.
C'est
pour entrer en société.
C'est déjà un âge où on parle.
Et oui,
souvent, quand on est petit enfant, même si on s'en souvient pas très bien. Je reviens sur cette idée de se parler, de s'écouter.
Oui.
Ce qu'on voit dans les affaires de violence, et il y a sans cesse des révélations,
bien sûr,
à la fois autour de la violence de l'inceste, dont on,
oui,
comprend qu'elle est si présente dans notre société, de violence dans des écoles, dans des pensionnats catholiques. Il y a eu beaucoup d'affaires qui montre qu'on n'a pas du tout écouté les enfants et que c'est plutôt le règne du non-dit. Qu'est-ce que ça vous apprend pour nous de notre société ? Parce que évidemment, tout le monde
partir sur ce terrain-là, c'est une horreur. L'année dernière, j'ai sorti « Je ne suis pas le doudou de mon papa ». C'est un livre pour les enfants de 7-8 ans, parce que je voulais qu'ils aient une autonomie de lecture et que je ne compte pas sur les adultes pour leur offrir un bouquin sur l'inceste, mais il s'agit d'inceste. Et ce qui a été très très difficile pour moi, c'est d'arriver au moment où l'enfant va pouvoir le dire. Alors certes, tout le monde le sait, il faut que tu trouves quelqu'un à qui le dire, c'est très important, t'iras mieux si tu le dis, enfin bref. Oui, mais comment, qui ? L'instit, elle passe à côté, la directrice aussi, à peu près. Et il faut qu'il pique sa crise à la fin et qu'il réveille sa mère d'un électrochoc. Mais c'est pas évident de parler et de trouver... D'ailleurs, on voit très bien que les femmes violées, elles mettent 50 ans à parler. Vous voulez pas qu'un gosse aille dire à la maîtresse...
Et quand elles parlent, est-ce qu'on les écoute ?
Non, et puis non seulement le pire, c'est pas qu'on les écoute pas, c'est qu'on dit que c'est pas vrai. Ça c'est encore le pire. Mais je pense que vous disiez, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants quand on ne sait pas quoi leur dire, etc. Mais il y a les bouquins. Moi, je fais des bouquins pour enfants, c'est exprès pour ça. C'est des passerelles entre le parent et l'enfant. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pas pour en faire des intellos, ils n'auront pas Polytechnique avec moi. Mais ils auront échangé quelque chose, d'abord, effectivement, le moment de la lecture, c'est important, mais des mots, des idées, des émotions... Et je prépare une collection vraiment où il n'y aura même pas d'image, parce que je pense que l'enfant n'a même pas besoin d'image. Il a besoin que le parent sorte de sa bouche ce qui sort de ce bouquin. D'ailleurs, Sartre le racontait dans les mots de Sartre, si on lit la page où il s'aperçoit qu'en fait, sa mère est en train de sortir de sa bouche ces petites fourmis qui courent sur le papier. C'est extraordinaire. C'est exactement ça. C'est une expérience. Et l'expérience du lecteur qu'on veut... quand on en aura fini avec les images, les écrans et tout, parce que ça sert à rien de pleurer si on continue à mettre des images partout, eh bien, c'est les mots, les phrases, la fiction, un roman, l'entendre lu, ça s'appellera « Lire avec les oreilles », ma collection, l'entendre lu par un parent qui y prend de l'intérêt, qui fait les voix, en plus, parce que, voilà, et tout à coup, savoir que on a des images dans sa tête. Parce que le gosse, très vite, il prendra conscience qu'il a, lui, ses images dans sa tête.
Évidemment, l'enfant peut garder les albums pour regarder des images dans des livres, ce qui est quand même un grand plaisir de l'enfant.
C'est un grand plaisir.
Je voulais vous amener sur un autre sujet, parce que aujourd'hui, des tas de podcasts sont disponibles pour les enfants. Il y en a vraiment des formidables.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il faut se méfier de ces podcasts qui peuvent remplacer la voix des parents? Est-ce qu'il faut garder du temps pour lire à son enfant, qui est une pratique au passage dont on peut aussi dire qu'elle est socialement située, que cette manière de sortir ces mots de sa bouche et moi, je me figure tout à fait là ce que ça veut dire,
mais oui,
ce que
sûr.
C'est, parce que je le fais
que vous
tous les
vécu,
jours de ma vie.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça qui compte, c'est que les mots sortent physiquement.
Mais évidemment, c'est de l'humain. Écoutez, c'est pas compliqué, on revient à Dolto un moment.
Oui.
Elle disait, on humanise l'enfant, c'est le lait de la parole. Le lait de la parole. On peut pas dire mieux. Donc, on le nourrit matériellement, mais on le nourrit aussi, et pas seulement intellectuellement, psychiquement. Et on lui passe de l'humanité. La personne qu'elle aimait beaucoup, Dolto, avec qui toute la famille allait passer des week-ends, vous savez qui c'était? C'était Jean Rostand, le fils de Cyrano, le fils de Edmond, celui qui était biologiste. Et ils allaient à Ville d'Avray chercher des grenouilles parce qu'ils faisaient des expériences, là, Carlos et toute la bande. Mais que disait ce gars, dont j'ai adoré la phrase, chaque fois qu'un enfant naît, c'est un Cro-Magnon qui vagit dans le berceau. Voilà. Ils étaient potes, Françoise Dolto et Rostand, parce que ils savaient tous les deux que, effectivement, c'est pas terminé et qu'il y a du boulot et que la culture, elle vient sur la nature. France Culture, c'est pas pour rien. Mais c'est ce qu'on va ajouter à cet enfant. C'est comment on va le guider et c'est le langage qui le fait. C'est les mots qui le font. C'est l'homo loquor, celui qui parle. Et pas avec que des signes, des gestes et des caresses. C'est pas un doudou, quoi. C'est pas un doudou.
Alors, ces mots, ces paroles qui circulent autour de nous, est-ce que finalement ceux des parents ont plus de valeur et pourquoi? Évidemment, on s'imagine qu'ils en ont une toute spécifique. Ça nous responsabilise, ça peut aussi nous culpabiliser en tant que parent. Oui.
Culpabiliser? Non, mais moi je vais tout faire pour vous déculpabiliser. Je suis en train d'écrire un truc pour les 0-1 ans. Et c'est vraiment, je compte sur les parents, parce que je suis tellement désespérée de voir que quand les mères poussent la poussette, elles parlent à leur téléphone et plus du tout à leur môme, que le môme, il entend des voix au-dessus, il sait pas qui est quoi, il comprend que sa mère parle dans le vide, dans une petite boîte. Je sais pas ce qu'ils en tireront, les gosses. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune machine, comme les podcasts, etc., ne remplace l'humain. Et si on ne sait pas, les livres sont là et on peut lire des choses. Et je ferai 365 petites miettes pour les parents qui sont en panne le soir au bord du lit. Et je serais ravie d'avoir fait ça, plus que d'avoir été psy, je crois.
Merci beaucoup, Elisabeth Brami. On peut lire tant de livres pour vous. Vous m'en avez apporté un. Poli, pas poli, le super livre de la politesse, c'est chez Casterman. Et puis, je rappelle le titre de l'éducation. L'éducation, selon Dolto, ce qu'elle a vraiment dit pour aider les parents, collection Espace Libre. C'est un poche publié chez Albin Michel.
Avec Patrick Delaroche.
Merci beaucoup pour ce magnifique deuxième épisode de notre série de podcasts. Écoutez le troisième, on va parler de Donald Winnicott.
Ah oui, alors j'adore.